Alors, nous commençons ce jour le cours de Nouveau Testament niveau 1 du deuxième semestre qui a pour titre la révélation du mystère de la personne du Christ dans les évangiles synoptiques et dans l'évangile de Jean. Je commencerai donc ce cours, si vous le voulez bien, par l'évangile de Jean. Et plus précisément par le prologue de cet évangile. Parce qu'évidemment, le dévoilement, la révélation du mystère de la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme, est totalement lié à la révélation du mystère de la Trinité, du mystère de la triunité divine, tel qu'il nous est donné dans le prologue de l'évangile de Jean. Et bien sûr, tout au long du cours, nous, s'agissant de la personne du Christ et de son mystère, nous mettrons en parallèle ce que nous dit saint Jean et ce que nous disent Matthieu, Marc et Luc, mais également ce que nous en disent les épîtres du saint apôtre Paul. Alors, d'abord, de manière courte, disons que l'évangile de Jean a des particularités. Évangile qui est, nous le savons, le fait du disciple bien-aimé, de l'un des fils de Zébédée, du frère de Jacques, lui aussi l'un des 12 apôtres. En tout cas, c'est ce que la tradition unanime affirme, et il n'y a pas de raison d'en douter. Donc cet évangile, pour le situer, sans perdre de vue le sujet de notre cours, bien sûr, mais en préambule, il faut rappeler qu'il a quelques particularités par rapport aux autres. Il est le plus tardif, il est le quatrième du nom, mais il a des particularité par rapport aux synoptiques. Je rappelle, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc. Pourquoi synoptique ? Synoptique, ça veut dire qui embrasse d'un même regard. Bon. Donc, notre évangile de Jean se singularise par rapport à ces synoptiques. Par exemple, il n'a pas de généalogie, comme on en trouve en Matthieu et en Luc. Il n'a pas de récit de la naissance de Jésus. Il établit que le ministère public du Seigneur, quand il était sur cette terre, se déploie sur 3 années. L'épisode, par exemple, des marchands du temple, il est au début du ministère public, donc dès le chapitre 2 de notre évangile, contrairement aux synoptiques. Il n'y a pas non plus de récit de la tentation au désert. Il n'y a pas non plus de récit sur le choix des disciples, ni même d'un épisode très important qui est celui de la transfiguration. Ajoutons que les paraboles ne sont pas mentionnées et que le récit de l'ascension ne l'est pas lui non plus. Jean nous rapporte dans son évangile un certain nombre de signes. Il préférera cette terminologie de séméia plutôt que celle de miracle. 6, parmi ces 8 signes qui sont rapportés dans l'évangile de Jean, 6 lui sont propres. Mais c'est aussi le cas des de la grande section qui va des chapitres 14 à 17, que l'on nomme les discours d'adieu et la grande prière sacerdotale. Autre particularité tout à fait remarquable, c'est que l'évangile de Jean ne contient pas de récit de l'institution du sacrifice eucharistique. Mais qu'en revanche, au chapitre 6, il y a tout ce chapitre essentiel qui est le discours sur le pain de vie. Alors, bien sûr, nous le savons, puisque c'est l'évangile le plus tardif, Saint Jean connaît les synoptiques, la tradition des synoptiques, elle est dans les églises du vivant même de Saint Jean, nous le savons, et de ce fait, Jean n'éprouve pas le besoin de répéter ce qu'ont dit les synoptiques, puisque cela est connu. Et c'est pourquoi il y a plus de 80% du contenu de l'évangile de Jean qui ne se trouve pas dans les trois autres évangiles, dans les trois synoptiques. Et donc, vous voyez, il y a une très, très belle symphonie entre les évangiles, une très belle complémentarité. Chaque évangile joue, si j'ose dire, pour filer la métaphore musical, joue de son instrument propre, mais tous sont en relation symphonique les uns avec les autres. Bien sûr, c'est l'œuvre d'un témoin oculaire. Sur les quatre, il y a deux témoins oculaires, il y a Saint Matthieu et Saint Jean. Et les disciples immédiats, Marc, disciple immédiat de Paul, et Luc, Marc, disciple immédiat de Pierre, pardon, et Luc, celui de Paul. Alors, Jean est témoin oculaire, et cette qualité de témoin oculaire est vraiment constitutive de la base de son évangile. On le remarque à pas mal de détails. Il est familier de la terre d'Israël qui... après la révolte Bar Corba en 135, prendra le nom de Palestine. Il connaît la localisation de Béthanie, chapitre 11, verset 18, le jardin sur l'autre rive du Cédron, 18.1, le portique de Salomon au temple de Jérusalem, 10.23, les piscines de Bethesda, 5.2, et de Siloé, 9.7, le pavement du prétoire de Pilate, qu'on appelle Lithostrotos, 19.13, alors que ces sites ne sont pas mentionnés dans les autres évangiles, et nous savons par l'archéologie biblique que tout cela est confirmé, l'exactitude de ces mentions est confirmée. L'évangile de Jean est aussi familier avec la tradition juive. Les fêtes juives sont mentionnées à plusieurs reprises. Chapitre 5, verset 9, 6, 4, 7, 2, 10, 22. Et on peut dire que les dialogues qui accompagne la mention de ces fêtes juives, eh bien, elles sont la manifestation d'une connaissance des cérémonies de la tradition liturgique juive et du sens de ces fêtes, de la théologie de ces fêtes. Bon nombre des usages également en vigueur dans le judaïsme de ce temps sont mentionnés, explicitement d'ailleurs, comme les règles de la pureté, 2, 6, 18, 28, l'agneau pascal également, 19, 36, ou implicitement comme c'est le cas, vous savez, de la tunique sans couture du grand prêtre au temple, 19, 23. Et nous savons que dans l'évangile de Jean, quand on parle des Juifs, le vocable « les Juifs », c'est toujours par référence au chef des Juifs. Donc, ce qui est visé là, dans ce vocable, c'est la désignation des autorités juives. On peut également dire que l'évangile johannique parle explicitement de la divinité du Christ, vrai Dieu, vrai homme, et de sa préexistence dans le sein du Père, dès le prologue. On en a plusieurs attestations, 8:58, avant qu'Abraham fût, je suis, 10:38, 14:9, 17:5, 20:28. Et on peut dire que c'est là, effectivement, une différence notable avec les synoptiques. Donc cet évangile, nous savons, par la tradition, est probablement écrit à Éphèse, dans l'espace-temps entre la destruction du temple et l'exil de Jean sur l'île de Patmos. Alors, voilà, après ce petit préambule, j'en viens au prologue. Nous revenons sur le prologue parce que le mystère de la personne du Christ est évidemment intimement lié au mystère de la révélation de la communion d'amour dans le sein de la divine Trinité, car Dieu est unique mais il n'est pas seul. Il est unique mais il est communion d'amour de trois personnes consubstantielles. Et donc le passage obligé pour notre sujet, c'est bien d'entrer dans le prologue qui est, on peut dire, le résumé et le joyau de cet évangile de Jean, et véritablement tout le joyau du Nouveau Testament. C'est une hymne au Verbe incarné. Et à la fois prologue, préface et synthèse la plus achevée de tout l'évangile de Saint Jean. Pourquoi ? Ben parce qu'il prolonge les événements et les dialogues évangéliques et il nous en livre la clé. Le prologue est vraiment la clé de tout l'évangile, donc la clé de la révélation de ce mystère de la personne du Christ. Cette clé, ici, c'est l'incarnation. Dieu le Logos, qui est dans le sein du Père, devient homme. C'est ça, qui est au centre du prologue. Et c'est le Verbe incarné qui révèle et donne naissance, donne la nouvelle naissance, donne la plénitude de la grâce, et fait que la vérité, la lumière et la vie sont venus dans ce monde. Parce que ce Verbe éternel qui s'est fait homme, eh bien, il vient habiter parmi nous au sens littéral, eskénosène, planter sa tente parmi nous. Et en sa personne, il est Dieu au milieu de nous. Il est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, la prophétie de l'Immanuel, telle que nous la trouvons dans le livre d'Isaïe dont nous avons parlé cette année. Il est préfiguré, cette habitation parmi nous est préfigurée par la tente d'assignation des Hébreux au désert, qui était mobile, qui pérégrinait avec le peuple hébreu au désert et qui était le lieu de la présence divine. Autant dire que, en très peu de versets d'une admirable concision, nous plongeons véritablement au sein du mystère de la vie en Dieu. Unique, mais pas seul, comme je viens de le dire. Et au sein même, par voie de conséquence, du mystère de la personne de Jésus-Christ, tel que la révélation évangélique nous la donne, et en particulier celle de Saint Jean, du mystère de la personne divino-humaine du Christ. Alors, en nous disant que dans le principe était le Verbe, donc dès le premier verset du prologue, nous sommes introduits par Saint Jean dans le mystère ineffable de la vie en Dieu de toute éternité. C'est quelque chose qui est incommensurable à notre intelligence, mais en peu de mots, d'une extraordinaire concision, avec ce que l'intelligence peut recevoir, l'intelligence humaine peut recevoir, nous sommes plongés dans ce mystère ineffable. Du Dieu unique, mais qui est en même temps communion de trois personnes. Donc de la vie trinitaire en Dieu. Alors, bien sûr, le prologue nous parle de l'intimité de la personne du Père et du Fils, et le Saint-Esprit, qui procède du Père, sera évoqué, donc, dans les chapitres 15 et 16 du même évangile de Saint Jean. Donc, c'est bien cette vie, ce mystère trinitaire et ce mystère de la double nature du Christ, eh bien, et leur dévoilement, leur révélation, pour ce que nous pouvons en saisir en vue de notre salut, et non pas dans son essence même, ce mystère-là est vraiment au cœur de l'évangile de Saint Jean. Autrement dit, on n'a pas affaire à une dissertation d'ordre philosophique sur l'essence divine. Mais il nous est ici révélé que par l'incarnation du Verbe, il nous est fait don de la vie éternelle. Et ce don suppose de notre part, parce que le Saint-Esprit agit en nous, c'est pas simplement par nos propres forces que nous pouvons l'obtenir, eh bien ce don suppose que nous accueillions, que nous recevions cette plénitude de grâce et de vérité qui vient vers nous. Par nos seules propres forces, nous ne pourrions arriver à la pure connaissance des choses spirituelles qui dépassent toute intelligence, tant qu'elles n'ont pas été rendues dignes de participer à l'incompréhensible vérité. L'incompréhensible vérité. Si nous en sommes rendus dignes, cela ne veut pas dire pour autant que nous accédons en ce monde à une connaissance plénière de cette incompréhensible vérité, mais nous accédons à la connaissance de cette incompréhensible vérité tout de même, en vue de notre salut, pour ce qui est nécessaire à notre salut. Donc le premier mot du prologue, nous le savons, c'est « arché », « en arché ». Et évidemment, cela renvoie tout de suite, pour le lecteur attentif de l'ensemble des livres qui enferment la parole de Dieu, la Bible, cela renvoie tout de suite au premier mot du livre de la Genèse, en arché, dans le principe. On traduit souvent au commencement, mais bon, c'est un commencement sans commencement, c'est un commencement qui n'est pas comme les commencements dans l'ordre de la création. C'est ce mot grec fait référence au mot hébreu « Bereshit ». Il a la même signification d'ailleurs. « Bereshit » vient de « Rosh » qui signifie « tête ». Comme l'usage juif d'ailleurs est de désigner les livres de l'Ancien Testament par le premier mot de chaque livre, la Genèse s'intitule « En tête, Bereshit ». Et « En arke » a exactement la signification de ce qui est avant, de commencement, de principe, d'origine. Mais c'est une origine sans origine, c'est un principe sans principe, c'est un commencement sans commencement, qui est au-delà de toutes ces notions-là dont nous sommes bien obligés de rendre compte avec nos pauvres mots humains, mais sachons que la réalité qu'il renferme est au-delà de tout ce qui est concevable par l'esprit humain. Et dans la Bible des Septante, la Bible d'Alexandrie, En arché figure comme le premier mot de la Genèse. Donc, l'évangile de Jean, son prologue, de ce fait, s'énonce à nous comme un évangile, l'expression a été maintes fois utilisée, comme un évangile de la nouvelle Genèse. Il y a la première Genèse qui est celle de la création, et il y a la nouvelle Genèse qui est le surgissement de la nouvelle création. Nous allons voir comment. Le livre de la Genèse nous parle de la création, donc du commencement ex nihilo du monde. Avant ce commencement du monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Commencement ex nihilo du monde, de l'espace et du temps, par l'action créatrice de Dieu. Il n'y a pas là de notion d'éternité de la matière qui aurait été organisée par un démiurge, comme on le trouve dans la pensée des anciens Grecs. Il y a un commencement ex nihilo, qui est l'œuvre du Créateur, qui est l'œuvre de l'action créatrice de Dieu. Et c'est pourquoi, à son tour, le prologue de l'évangile de Jean va plus loin. Il nous place dans un commencement sans commencement, comme je l'ai dit, dans le principe sans principe, élève en sept mots, vous vous rendez compte, hein, c'est extrêmement concis, en sept mots, un coin seulement, mais suffisant pour nous, un coin du voile sur le mystère de la vie en Dieu. Et si le mot grec « arché » signifie « commencement », on lui préférera, sur le plan de la traduction dans notre langue, celui de « principe ». Car, évidemment, le nom, le vocable de « commencement » en langue française est trop lié avec la notion de temps. Or, Dieu un et trine, trinitaire, triunitaire, est au-delà même du temps. Et bon, ben là, une fois encore, nous voyons la radicale inadéquation du langage humain pour rendre compte du mystère de Dieu. Et pourtant, Dieu nous apprend, nous enseigne son mystère en utilisant des mots humains, en utilisant la langue des hommes. On ne peut pas faire autrement. Donc la préposition « en » qui précède le mot « arché » signifie littéralement « dans ». Avec le sens d'une quelque chose inséparable, de totalement intime, à l'intérieur d'eux. Donc quand on traduit en arché en hologos, par dans le principe était le verbe, cela signifie bien que à l'intérieur du principe était le verbe. Il n'y a pas de distance entre le principe et le verbe. Et le verbe était Dieu, ke hologos en proston theon. nous dit le verset 1b, ce logos tourné vers Dieu, soulignant par là l'intimité ineffable qui l'unit à Dieu. Donc Dieu est une personne, et le Verbe est une personne, Dieu lui-même. Et « ke theos en ologos » et « Dieu était le Verbe », ayant donc la même essence divine, mais hypostatiquement distincte de celui qui est Père, source sans commencement, par rapport au Verbe, donc qui est Fils, engendré de toute éternité. C'est un engendrement, il ne faut pas confondre avec l'engendrement humain, bien sûr. C'est un engendrement au-delà de tout ce qui est concevable par nous. C'est un engendrement de toute éternité. Donc là, c'est prodigieux. Nous sommes en très peu de mots introduits dans cette unicité divine à l'intérieur de laquelle il y a une communion d'amour, une communion de personnes qui ont leurs caractéristiques hypostatiques propres. Et de là, nous introduisant au cœur de ce commencement sans commencement, au cœur de cette inexprimable origine sans origine, eh bien Jean va nous conduire à l'œuvre de ce logos et va nous instruire progressivement. Tout son évangile va dévoiler progressivement le mystère de la personne de ce logos qui s'est abaissé jusqu'à nous et qui a pris notre nature humaine sans aucun changement quant à sa divinité. Vous savez que les anciens Grecs considéraient que si Dieu se faisait homme, sa divinité se dégraderait. Et là, il n'en est rien, bien sûr. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et par son incarnation, sa divinité ne subit aucun changement. Alors, Jean nous conduit très vite à l'œuvre de ce logos. Logos, c'est un terme grec qui est cher, qui plus est, à la philosophie grecque, au néoplatonisme, mais aussi un personnage très important au 1er siècle, qui est le juif, le maître juif d'Alexandrie, Philon, le grand Philon d'Alexandrie. Mais chez saint Jean, évidemment, contrairement à certains courants philosophiques grecs, l'emploi de ce mot logos ne renvoie pas à un démiurge qui serait un instrument de la création, un intermédiaire entre Dieu et la création, un instrument de la création, donc un démiurge, mais au davar hébreu, au davar Adonai, à la parole de Dieu. Parole, nous savons par l'Écriture, qui est toute puissante et efficace, car en Dieu, dans sa parole, il n'y a pas de distance entre le dire et l'acte. Les deux sont inséparables. Dieu dit et ce fut. Que la lumière soit et elle fut. Il n'y a pas de distance entre le dire et l'acte. C'est donc cette parole, ce verbe, qui est identifié au Christ et ailleurs dans le Nouveau Testament. Cette parole qui s'est manifestée aux apôtres, qu'ils ont pu voir, entendre et toucher. Hein, l'apôtre Jean le dit dans sa première épître. Paul le dit également, lui qui est au commencement, arché, en Colossiens 1,18. Saint Jean qui le dit dans sa première épître, chapitre 1, les versets 1 à 3, ce qui était au commencement, at arkes, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, entendu, vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Et la vie fut manifestée. Vous voyez ? Entendu, vu, contemplé, touché. Ailleurs, moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement est arché et la fin, Apocalypse 21:6, répété en Apocalypse 22:13, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc la parole ici, qui est une personne, qui n'est pas simplement, qui n'est pas un attribut comme ça, c'est une personne, la parole est clairement identifiée dans notre prologue au Christ. La parole est personnifiée. À la suite d'ailleurs, il faut le remarquer, parce que la Bible est un tout, à la suite d'ailleurs de ce qu'on peut observer, c'est-à-dire un processus qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament d'une personnification de la sagesse, en particulier dans le livre de la sagesse, dans le Siracide, mais aussi dans les proverbes, et parfois aussi dans les targoums. Les targoums, vous savez, qui sont lus dans les assemblées de prière à la synagogue, et qui sont des commentaires de l'Écriture. Toutefois, il faut souligner quand même qu'il y a une discontinuité. C'est pas, le prologue de Jean n'est pas seulement l'aboutissement de cela. Il y a une discontinuité, car nulle part, le logos, le davar, d'Alet Vavresh, le davar, la parole de Dieu, en dehors de l'évangile de Saint Jean, n'est identifié comme Dieu qui est dans l'intimité de Dieu, comme personne divine qui est dans l'intimité du Père. Nulle part ailleurs que dans l'évangile de Jean, nous trouvons cela. Alors, pourquoi encore le nommer Logos ? Eh bien, à l'époque de l'évangile de Jean, il faut se souvenir que le néoplatonisme et même le stoïcisme désignaient par le mot Logos une sorte de raison cachée au cœur du monde, un principe insaisissable qui assurait la cohésion, la cohérence de l'univers, et qui, de plus, habitait dans l'homme doué d'intelligence, et de ce fait, bon, c'est la rationalité humaine, pouvait réguler sa conduite. Par exemple, pour les stoïciens également, le logos demeurait une force impersonnelle. Le logos des Grecs, c'est toujours une force impersonnelle. Et les frontières entre Dieu et le monde restaient indécises. Par exemple, au 1er siècle, à Alexandrie, donc Philon se donnait pour tâche d'ouvrir l'accès des Écritures aux païens. On sait, hein, il est dans une démarche de confrontation du donné révélé avec la culture hellénistique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a réservé au Logos une place tout à fait centrale dans sa théologie. Pour lui, c'est aussi une parole personnifiée, c'est le premier-né de Dieu. C'est une image de Dieu, mais... Évidemment, il n'a pas ce logos philonien, il n'a pas du tout le statut du logos dans le prologue de Jean. Il reste en fait un espèce d'intermédiaire entre Dieu et le monde créé, un médiateur entre Dieu et l'âme humaine, car il était l'agent de la communication de Dieu à l'homme, surtout d'ailleurs à travers Moïse et la loi qu'il a transmise. Mais il faut noter aussi que pour les Juifs, cette parole, ce logos, était inséparable de Dieu et de son action dans le monde, car le davar, la parole de Dieu, ce davar hébreu est une réalité dynamique. Une réalité dynamique. Et j'ai évoqué sa personnalisation dans certains écrits, ce processus plus exactement de personnalisation dans certains écrits de l'Ancien Testament. On peut évoquer également ce qui est dit de la Memra. La Memra, c'est le mot araméen qui désigne la parole, dans le Targum de Jonathan. Memra qui est présenté comme un substitut de Dieu. Je cite, « Et il leur déclara, rendez grâce et ayez foi dans le nom de la parole d'Adonai, Dieu des mondes. » Autre parole, « Moïse construisit un autel et il pria au nom de la parole du Seigneur, qui avait fait pour lui des prodiges. » Encore une autre citation, à propos d'un targoum de l'Exode, dans ta miséricordieuse bonté, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par le nom de ta parole et à qui tu as dit. Et d'ailleurs, dans le Targum de Jonathan, sur l'Exode, 25 en particulier, Dieu parle de sa parole, sa memra, tantôt comme un substitut de lui-même, ou d'une entité distincte de lui. C'est, vous voyez, c'est... On ne sait pas trop, mais bon, ça apparaît quand même. Je cite, « C'est là que je donnerai à ma parole rendez-vous avec toi et je parlerai avec toi au-dessus du propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui se trouvent sur l'arche du témoignage, pour te dire tout ce que je prescrirai aux enfants d'Israël. » C'est là que je donnerai à ma parole rendez-vous avec toi. Bon. Autre citation, ma parole s'avancera parmi vous. Ma parole sera pour vous Dieu rédempteur, et vous serez un peuple saint pour mon nom. Ma parole sera pour vous Dieu rédempteur. Encore une autre citation du Targoum de Jonathan, je ferai demeurer la gloire de ma Shekinah parmi vous. Shekinah, c'est la présence. Ma parole sera pour vous Dieu rédempteur encore, et vous serez une nation sainte pour mon nom. Et le livre de la sagesse dit de la parole, elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Sagesse 7, 46. Et en écho, l'Épître aux Hébreux, parlant du Christ, dit « resplendissement de sa gloire et empreinte de sa substance », parlant de cette parole qui est le Christ. Donc, nous sommes bien en présence d'un évangile qui se veut Nouvelle Genèse. Et cette Nouvelle Genèse, elle commence par un exode, si on peut parler ainsi. Parce que la lumière qui est en Dieu, Dieu est lumière, est totalement lumière, il n'y a pas d'ombre de ténèbres en lui, et cette lumière, elle vient au sein même de ce monde. Donc, on peut parler, avec toutes les précautions qui s'imposent, on peut parler d'un exode descendant, d'un exode dans lequel, d'ailleurs, cette lumière ne perd aucune de ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amoindrissement de la divinité, il n'y a pas de changement quant à la divinité, et le Christ est vrai Dieu et vrai homme, pleinement Dieu et pleinement homme. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'évidemment, dans tout le déploiement des hérésies dans les premiers siècles de l'Église, et même bien au-delà, parce que Les hérésies des premiers siècles sont archétypiques et elles se déploient tout au long des siècles avec des oripeaux différents, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Eh bien, il y a des contestations à ce sujet-là. Et l'Église nous enseigne qu'il n'y a aucun changement quant à la divinité dans la personne du Christ. La lumière vient dans le monde, donc le dessein de Dieu trouve son accomplissement en majesté par cette lumière qui vient dans le monde, et cette lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jean, après nous avoir fait entrevoir l'intensité de vie intérieure en cette source sans origine, en ce principe sans commencement, nous conduit vers la fécondité de cette vie, parce que la venue de la lumière va entrer, amener plus exactement la vie au sein même de ce monde qui, étant séparé de Dieu, est un monde de mort. Bien sûr, il y a la vie biologique, mais c'est un monde qui est mort spirituellement. Et la venue de la lumière, du sein même de la divine Trinité, dans ce monde, va amener la vie. Donc, la fécondité de cette vie, eh bien, Jean va nous la raconter dans tout son évangile, et les autres apôtres et évangélistes également, bien sûr. Cette lumière qui est créatrice de toutes choses, tout fut par elle et sans elle rien ne fut. Chapitre 1, verset 3. Cette lumière qui est lumière des hommes, verset 4, qui est illumination, verset 5, qui est incarnation et plénitude, verset 16 et 18. Donc voilà. Maintenant, il vaut la peine de regarder comment s'organise ce prologue, parce que, je le rappelle encore une fois, il nous livre toute l'organisation de l'Évangile, tout ce dévoilement, non seulement du mystère trinitaire, mais du mystère de la personne du Christ lui-même, qui est l'objet de notre étude. Donc Jean nous décrit ce qu'on pourrait nommer un double mouvement d'exode, puisque il y a la lumière qui vient dans le monde, qui accomplit le dessein de Dieu et repart, qui réintègre le sein de la divine Trinité. Donc c'est un double mouvement d'exode par lequel Dieu s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Et qui fait que toute âme chrétienne est en exode elle-même, en exode et pérégrinante vers le royaume, vers la seule demeure qui est stable au sein de ce monde qui passe. Alors le prologue, il a une structure concentrique, bien sûr, et les versets se font écho, comme nous allons le voir. Au verset 1 et 2, nous avons le Verbe qui préexiste en Dieu, qui est à l'intérieur, comme je l'ai expliqué, qui est tourné vers lui, proston theon, qui est donc la preuve de cette intimité entre Dieu source et Dieu Verbe, Dieu Père et Dieu Fils, qui sont même Dieu, mais qui sont en même temps communion d'amour d'hypostase qui ont chacune leurs caractéristiques. Et le verset 18 qui clôt cet hymne, qui est le prologue, qui revient vers le Fils monogène, l'unique engendré, qui est dans le sein du Père, et qui est venu pour nous révéler, nous dévoiler, nous faire connaître le Père. Et le Verbe préexistant et le Fils monogène sont une seule et même personne, comme nous le dit ce prologue. Et le cœur même, entre, donc depuis les premiers versets 1 et 2 jusqu'au verset 18, de manière concentrique, on va au centre, au cœur du prologue, et ce cœur du prologue est centré sur la mission du Verbe. La mission du Verbe, nous allons le voir. Le verset 3, « Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. » Bon, on peut traduire avec des variantes, mais l'idée principale est cela. Renvoie à la place du Verbe dans la création, à son action antérieurement à la création. Tout est advenu par lui, le Verbe ginomai. Le verset 3 est lié au verset 17. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc là, par ce jeu des versets qui se répondent, il y a sous-tendu le motif, le double mouvement de la création et de la recréation. Encore ginomai, verbe que l'on trouve dans le récit d'ailleurs de la création au livre de la Genèse dans la Septante. Quant aux versets 4 et 5, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Bon nombre d'éditions françaises disent comprise, mais je pense que c'est affaiblissant. Il vaut mieux traduire par saisie. D'autres traduisent par saisie, c'est plus exact. Arrêter, capter. Catalambano, c'est capter, accaparer. Eh bien, ces versets 4 et 5 ont en écho le verset 16, de sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Ce sont les dons accordés aux hommes que le Verbe, qui est le Fils monogène, le Fils unique engendré, est venu apporter aux hommes, en dépit, malgré l'hostilité de ce monde. C'est Saint Jean, vous savez, il y a toujours la distinction entre le monde qui est création, œuvre bonne de Dieu, et ce monde qui est le monde séparé de Dieu. Eh bien, en dépit de l'hostilité de ce monde, le Fils monogène est venu apporter, accorder les dons de Dieu aux hommes, parce que la lumière d'en haut est venue au sein même de ce monde. Nous remarquons donc l'irruption, si j'allais dire, dans les versets 6 et 8, nous remarquons une sorte de césure, puisqu'il est fait référence au témoignage du précurseur, le Baptiste Jean, qui est le dernier et le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, et qui est venu préparer le chemin au Christ. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Alors ces deux versets font écho au verset 15, où Jean-Baptiste annonce, après, que celui qui vient, il dit très exactement, celui qui vient, il est venu, chronologiquement parlant, selon la naissance, après moi, mais en fait, il était avant moi, dit le Baptiste. Il était avant lui, bien sûr. Alors, ce Baptiste qui clôt, je rappelle, la prophétie d'Israël. Et Jean ajoute, Jean lui rend témoignage et proclame, « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce qu'avant moi, il était. » Donc, Jean aussi rend témoignage de cette éternité du Verbe. Celui qui s'incarne, eh bien, c'est le Verbe éternel de Dieu. Donc, il était avant toute chose. Il est sans commencement et il était avant toute vie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le Baptiste se déclarera indigne de dénouer la lanière de sa sandale. 1, chapitre 1, verset 27b. Et vous savez que ce geste, c'est celui du disciple par rapport au maître. Et donc le maître est si grand que le disciple ne se sent même pas digne de dénouer la lumière, la lanière de la sandale du maître. Les versets 9 à 11 évoquent le Verbe comme illuminant tout homme venant dans le monde. Donc, c'est la lumière qui donne l'être et la vie. C'est, on peut la décrire aussi comme la lumière de la loi et de la prophétie, de tout ce qui était annoncé dans la promesse de la première alliance. Le Verbe était la lumière qui, venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Voilà ce qui est dit à travers ce verset. C'est ce qui est évoqué, c'est la position d'Israël, mais à travers lui de toute l'humanité. Car le monde est celui de Dieu comme créature bonne, voulue par lui, mais comme je l'ai dit, ce monde est aussi l'empire des ténèbres, gouverné par celui qui est le prince du mensonge et celui qui est le meurtrier dès l'origine, comme le dit l'Évangile. Donc ces versets 9 à 11, ils font référence, ils font écho au verset 14. « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que le Fils unique, plein de grâce et de vérité, tient du Père. » Et le Verbe s'est fait chair, si on suit le texte grec, ou eschinosène, plus exactement, on doit le traduire, et le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente parmi nous. La formule est un peu insolite, bien sûr, c'est pour ça que la plupart de nos Bibles en langue française traduisent par « et il a habité parmi nous ». Mais c'est plutôt « il a planté sa tente parmi nous », c'est en référence, bien sûr, à la tente d'assignation, qui était le lieu de la présence divine et qui pérégrinait avec les Hébreux au désert. Autrement dit, là, ce qui nous est enseigné, c'est celui qu'aucun lieu ne peut contenir. Eh bien, il s'est fait limite, il s'est fait petit, il s'est limité volontairement en prenant la nature mortelle de l'homme. Donc c'est un exode sous forme de kénose, d'abaissement. L'abaissement. L'épître aux Philippiens nous le dit, hein, au chapitre 2, verset 6, il se vida lui-même. C'est fort comme expression. Il se vida lui-même, prenant la forme d'esclave et devenant semblable aux hommes. Il n'a pas retenu comme une croit à garder d'être l'égal de Dieu, nous dit également l'épître aux Philippiens, mais il se vida lui-même. Donc cette descente, cet exode d'en haut vers nous s'apparente à un abaissement, à une kénose. Le Christ se vide en quelque sorte, bien sûr on le dit avec nos mots, mais il se vide pour se faire, pour devenir semblable à ses frères, tout en étant Dieu, comme le dit l'Épître aux Hébreux. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères. Hébreux 2, versets 14 à 18. Et pourquoi ? Eh bien, pour nous libérée de l'empire de la mort, parce que la nature humaine, par la désobéissance d'Adam, cette nature humaine a hérité de la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est coupée de la source de vie. La désobéissance d'Adam, c'est le signe que l'homme se veut autosuffisant, être nécessaire par lui-même, alors qu'il tient sa vie de Dieu. Il se pose orgueilleusement en face de Dieu, comme un Dieu en face de Dieu. Vous serez comme des dieux, il a écouté la parole, la suggestion maléfique du serpent, vous serez comme des dieux. Et de ce fait, cette désobéissance introduit la nature humaine dans la déchéance et la mort, que nous héritons par la naissance biologique, et qui nous amène à notre tour à accomplir aussi, trop souvent hélas, le péché personnel d'Adam, la désobéissance à Dieu. Et donc, Dieu s'est abaissé jusqu'à nous pour nous libérer, justement, de cet empire de la mort. Parce que l'homme ne peut pas, ne pouvait pas se libérer par lui-même de ce cycle infernal de la naissance pour la mort. Ça lui était une tâche totalement impossible. Et Dieu a choisi cette manière de faire, et non pas un décret pardonnant à Adam, décret qui serait resté en quelque sorte extérieur à Adam, et qui est, comme le disent nos pères, qui aurait continué à favoriser le péché, quelque part. Parce que ça serait, le décret serait resté quelque chose d'extérieur. Donc Dieu a choisi une autre voie dans son admirable pédagogie, qui consiste à assumer de l'intérieur la nature humaine dans toutes ses dimensions, y compris dans sa réalité elle-même de nature créée, c'est-à-dire dans la mort, eh bien, il a assumé toute cette nature humaine pour faire éclater la vie au sein même de la mort. Donc c'est vraiment une nouvelle incroyable que nous révèle le prologue de Jean, même si nous assistons, comme je l'ai dit, à un certain mouvement de personnification de la parole dans l'Ancien Testament, selon les livres que j'ai cités, les Targoum que j'ai cités. Parce que dans ces écrits-là, la sagesse n'est pas présentée comme Dieu, et encore moins n'est évoquée la possibilité de l'incarnation, de ce grand mystère de l'incarnation qui était même caché aux anges. Donc c'est la vraie nouveauté. Je ne sais plus qui disait « rien de nouveau sous le soleil sauf l'incarnation », mais c'est vrai. Incarnation qui est donc un exode, une kénose, un abaissement, où le Christ, donc le Messie de Dieu, le roi d'avant les siècles, se fait homme. Il dresse sa tente parmi nous. Et ceci renvoie au récit de l'Exode. Il y a toute une imprégnation vétérotestamentaire qui est là. Non seulement il y a un écho, même lointain, de ce mouvement de personnification de la parole que nous trouvons dans certains écrits de l'Ancien Testament, ou même dans des commentaires de l'écriture vétérotestamentaire, mais il y a des références sous-jacentes à l'Ancienne Alliance, à la tente d'assignation dans laquelle se trouvait l'Arche d'Alliance, à l'entrée de laquelle se trouvait la nuée divine qui descendait pour converser avec Moïse, comme en Exode 33:9. Ainsi, donc, par le mouvement de l'incarnation, la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu est au milieu de nous. La gloire de Dieu, Kebod Adonai, est au milieu de nous. Et la prophétie de l'Immanuel, Dieu avec nous, voit son accomplissement. Ce que le prince des apôtres de l'Ancienne Alliance, Isaïe, avait prophétisé, eh bien, s'est réalisé par la présence visible d'abord pour les apôtres et tous les témoins oculaires, et invisible pour nous, mais bien réel dans l'Église, dans les mystères de l'Église, par l'action du Saint-Esprit et en vertu de la parole que le Christ nous a donnée. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, évidemment, ce monde est une demeure provisoire, parce que ce monde, il est appelé à passer. Et il est pour nous une demeure provisoire, car notre demeure définitive, notre véritable patrie, celle qui n'obéit pas à une géographie de l'espace-temps, mais celle qui obéit à une géographie spirituelle, c'est le royaume de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la divine liturgie, le prêtre prononce ces paroles, ayant l'assemblée ayant reçu les saints dons eucharistiques, le prêtre dit « Donne-nous d'être unis à toi plus profondément dans le jour sans crépuscule de ton royaume. » C'est-à-dire que nous, ce que nous avons reçu, c'est bien les arts du royaume qui est déjà présent au milieu de ce monde, mais qui est aussi en attente d'une plénitude totale quand Dieu l'aura décidé à la consommation des siècles, quand le nombre des élus, disent certains pères, aura été compté. Enfin, le centre même de ce mouvement concentrique du prologue, le pourquoi de cette kénose du Verbe, de cette union de la divinité et de l'humanité sans confusion ni séparation dans la personne même du Christ, eh bien, ce qui renvoie à l'accomplissement définitif du dessein du Père à notre égard, eh bien, ce sont les versets 12 et 13. « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Bon, j'ai lu récemment dans une édition, dans une traduction de la Bible qui s'appelle Second 21, qui dit en sous-titre l'original avec les mots d'aujourd'hui, ce qui est déjà surprenant pour être gentil. Qui dit « Il a donné le droit de devenir enfant de Dieu ». Mais ce n'est pas un droit. Nous n'avons aucun droit de devenir enfant de Dieu. Cela nous est donné par grâce. C'est parce que le Verbe de Dieu s'est fait homme, parce qu'il s'est abaissé jusqu'à nous, que en l'accueillant, en le recevant par l'action du Saint-Esprit en nous et en nous ouvrant à cette action, donc en étant ouvert à cette parole de vie qui est une personne et qui vient au milieu de nous, eh bien que nous avons le pouvoir de naître à nouveau comme enfants de Dieu, d'échapper au déterminisme biologique dans lequel nous naissons et qui, d'une certaine manière, nous tiennent dans certaines formes d'esclavage. Hein ? Bien sûr, puisqu'il y a une solidarité biologique entre nos ascendants et nous. Et là, nous entrons dans une nouvelle filiation, qui est une filiation dans laquelle nous sommes véritablement libres. Et ce pouvoir qui nous est donné, c'est par celui qui est le Dieu d'avant les siècles et qui s'est fait homme. Donc ce n'est pas un droit. C'est ahurissant de traduire ça par « il a donné le droit ». Ce n'est pas un droit. C'est conforme à l'esprit de cette époque, qui ne parle que de droit en tout sens. Bon, donc voilà. Et ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de la chair, donc par la naissance biologique, mais ni d'un vouloir d'homme, par la décision d'un couple humain, mais de Dieu, de Dieu. C'est la nouvelle naissance en Dieu qui nous fait échapper au déterminisme mortel. Et c'est là le sommet de tout le mouvement du prologue, le point d'aboutissement de l'exode du Verbe avant son retour dans la gloire de la Sainte Trinité, après avoir accompli tout le dessein de Dieu par son enseignement, par ses actes, par les signes qu'il accomplit, par l'enseignement aux disciples, aux apôtres, aux foules, par sa passion vivifiante, par sa glorieuse résurrection, par son ascension dans le ciel, eh bien, il s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Et c'est cette nouvelle naissance qui, en quelque sorte, fait que notre âme s'ouvre à la présence du Christ, comme la fiancée ouvre la porte à l'époux, tel que c'est rapporté dans l'Évangile, et tel que d'ailleurs l'office de l'époux nous met en situation, l'office de l'époux qui commence dans les premiers jours de la grande semaine. C'est en plaçant notre confiance, c'est-à-dire notre foi en lui, en l'accueillant comme parole de Dieu faite chair, donc comme vérité, voix et vie, que nous sommes enfantés dans cette paternité qui nous libère, et non plus cette paternité qui peut éventuellement nous enchaîner, puisqu'elle nous transmet la nature déchue. Et toutes les étroitesses de nos déterminations biologiques. Cette naissance, donc, c'est quelque chose qui nous est familier, c'est dans le Saint-Baptême que nous la recevons, et c'est l'œuvre du Christ en nous, et au sens fort du terme, c'est une recréation. Nouvel exode, nouvelle genèse, nouvelle création. Donc c'est une recréation. Toute l'œuvre du Verbe, par sa parole toute-puissante, et donc qui est le signe du don total de lui-même, de son amour incommensurable, de sa miséricorde, de sa compassion. Nous parlons souvent non seulement du Dieu miséricordieux, mais de sa condescendance, de son immense compassion pour les hommes qu'il met toujours en œuvre malgré que l'homme se détourne de lui, qui attend sans cesse le retour de l'homme, comme le Père attend le retour du Fils prodigue, eh bien, tout cela s'apparente à une œuvre de recréation. Donc là, nous serons amenés, dans les leçons suivantes, à voir comment se déploie progressivement, dans l'Évangile de Jean et dans les synoptiques, tout ce dévoilement, toute cette révélation du mystère de la personne du Christ, mais qui est déjà présent en majesté avec les mots du prologue. Il n'y a pas un mot de trop, c'est ciselé comme un joyau, ce prologue de l'Évangile de Jean, et qui nous introduit dans le mystère trinitaire et dans le mystère de la double nature de celui qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous sauver. Et nous aurons l'occasion de voir dans le vocabulaire même dans le vocabulaire même donc de l'Évangile et des Évangiles, comment cela s'illustre. Voilà, j'en ai terminé.